Il est bon d'être encore dans la présence du Seigneur pour le louer, l'adorer, mais aussi pour entendre sa voix. Nous lui avons parlé et il veut lui aussi nous parler. L'adoration est une relation d'amour. La vie chrétienne est une relation d'amour, avant tout, n'est-ce pas vrai? C'est le Seigneur qui nous aime, qui l'a montré à la croix, et en retour, nous l'aimons aussi de tout notre cœur. Que son nom soit béni. Nous allons voir ensemble quelques pensées importantes pour la vie de tout enfant de Dieu. Nous sommes ici-bas comme dans un combat. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » 2 Timothée 6, 12. « Combat le bon combat de la foi. » C'est un bon combat parce que nous sommes vainqueurs d'avance. C'est ça qui est formidable. Avant de commencer, nous sommes déjà vainqueurs. Ça, c'est merveilleux. Vous ne trouvez pas? Parce que Jésus a déjà vaincu et sa victoire est déjà la nôtre. Alors nous allons en vainqueur et pour vaincre. Gloire à Dieu. Alors, comment combattre ce bon combat de la foi? Ou si vous voulez, comment régner avec Christ? Car ce combat de la foi a quel but? Le but est que Jésus, le roi, règne toujours plus dans nos vies, et non seulement dans nos vies, mais dans l'Église, et aussi dans le plus de cœurs possible dans ce monde, n'est-ce pas vrai? Son but est de régner dans les cœurs. Mais comment régner? Comment vaincre? Comment combattre ce combat? Comment régner avec Christ? Pour cela, il faut certaines qualités spirituelles que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, certaines qualités indispensables. Et pour cela, nous allons prendre déjà un premier verset dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 5, verset 17, nous dit ceci. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ?» Voyez-vous ici, à nous qui avons reçu l'abondance de la grâce, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Régner sur nos sentiments et non pas être dominé par nos sentiments. Régner sur les circonstances et non pas être dominé par les circonstances. Amen. Régner ainsi sur tout ce qui pourrait nous accabler, nous défaire. L'Esprit de Dieu en nous veut nous rendre vainqueurs de toute faiblesse et de tout ce qui peut nous empêcher à avancer et à triompher en Jésus-Christ. Nous devons croire que cela est possible par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et par son œuvre qu'il opère en nous. Et nous allons prendre, si vous le voulez bien, comment régner avec Christ. Nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament. C'est l'exemple de David. Quand il n'était pas encore roi, il avait été loin roi, mais il était encore rejeté par le peuple. Et il était à Tsiklag, vous savez, il était un peu loin du peuple, parce que Saül ne voulait pas encore qu'il règne, n'est-ce pas? Mais alors que David, c'est dans 1 Chronique chapitre 12 que nous allons méditer maintenant, alors que David était là, rejeté encore, plusieurs personnes, plusieurs vaillants guerriers se sont joints à lui. Ils n'ont pas eu peur. David était rejeté. Et David est l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? David, c'était le roi, le futur roi, le roi rejeté à ce moment-là, hein, mais qui a régné après. Et aujourd'hui encore, Jésus est ce roi rejeté, mais qui un jour régnera, parce qu'il est le roi des rois. Amen. Et pendant que nous sommes sur cette terre, il est le roi un peu rejeté. On n'en tient pas compte. Mais sur cette terre, tout le monde ne le rejette pas. Comme pour David, il y a eu des vaillants guerriers qui sont venus près de lui. Amen. Amen. Quelle consolation pour David, vous ne trouvez pas? Surtout quand on est rejeté, qu'on ne veut pas de vous, et qu'il y en a quelques-uns qui restent fidèles. Dans les moments les plus difficiles, ils s'attachent à vous, ils s'engagent avec vous. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois que pour David, ces vaillants guerriers qui étaient là, ça a été la plus grande consolation de sa vie, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Et aujourd'hui encore, il en est de même. Notre roi ne règne pas encore pleinement, n'est-ce pas? Mais un jour, il régnera. Il est rejeté. Et dans ce monde qui le rejette, il attend des hommes et des femmes, des vaillants guerriers, guerrières, qui se tiennent près de lui et qui manifestent un état d'esprit pour le servir alors qu'il est rejeté, pour l'aimer, pour se tenir près de lui et pour combattre avec lui, pour son royaume. Alléluia. Alors, nous allons voir un peu quelles sont les différentes qualités de ces vaillants guerriers que David a eu autour de lui. J'ai noté ici 8 caractéristiques, 8 caractères, si vous voulez, 8 qualités que nous allons voir ensemble. La première qualité, enfin, c'est une qualité, mais ce n'en est pas une, mais ça commence, il faut commencer par le commencement. On trouve cela dans 1 Samuel 22, verset 2. Il est dit, David avec lui des hommes malheureux, le résidu, ceux qui avaient des dettes, qui étaient dans la détresse, les mécontents. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Il y en avait environ 400. Alors ça commence déjà, apparemment, vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas l'air de vaillants guerriers. Mais c'est ainsi que sa troupe s'est formée, et vous savez, pour le roi des rois, sa troupe aussi est formée de gens un peu spéciaux. Et nous trouvons ces gens-là dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Avant d'être des vaillants guerriers, nous n'avons pas toujours été des vaillants guerriers. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez voir ce que nous étions. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. Il est bon peut-être de le lire. Afin que lorsque nous serons dans le combat et que Dieu nous donne de remporter des victoires, nous nous rappelions toujours qui nous étions. Amen. Comme Paul le faisait souvent, il se rappelait très souvent d'où le Seigneur l'avait sorti. Et c'est comme ça qu'il est resté toujours humble. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 4. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Mes amis, voilà l'armée qui se trouve autour du Seigneur, ici-bas. Des gens qui autrefois étaient des fils de la rébellion, des enfants de colère. Et c'est ce que nous étions, n'est-ce pas? Et la Bible, l'apôtre dit bien, nous étions de leur nombre, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Comme David, ces hommes qui étaient là, les mécontents, ceux qui avaient des dettes, et nous avions des dettes. Quelle dette nous avions devant le Seigneur? Une dette que nous ne pouvions plus payer. Notre péché était si grand, nous étions malheureux, nous étions des rebelles, nous avions une grande dette. Mais Dieu ne nous a pas rejetés. Amen. Nous sommes venus à lui, dans la repentance et dans les larmes. Il nous a sauvés. Et il est dit ici, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous par Jésus-Christ. Dieu a été infiniment bon dans sa grâce à notre égard. Amen. Alléluia. Nous devons nous rappeler toujours d'où le Seigneur nous a sortis. Nous étions comme cette troupe-là, un peu rejetée, mécontente, mécontents de nous-mêmes, mécontents de tout ce qu'il y avait dans ce monde. Mais en Jésus-Christ, nous avons été pleinement comblés. Auprès de lui, nous avons reçu le pardon, la purification, la vie éternelle. Alléluia! Gloire au Seigneur! Voilà comment l'armée de David a commencé. On pourrait se demander, est-ce qu'il va se passer quelque chose avec cela? Mais oui, c'est la grâce de Dieu. Du pire, le Seigneur peut en sortir le meilleur. Alléluia! Amen! Qu'on trouve des vaillants guerriers au milieu de ces gens-là, ça montre justement la grandeur de Dieu, l'infinie bonté de Dieu. Nous étions rien du tout, rejetés, abaissés par les hommes et par nous-mêmes. Il n'y avait rien de beau, rien de bon. Mais lorsque nous venons en Jésus-Christ, alors il nous comble de ses grâces. Amen. Il nous bénit et nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Qui que tu sois, Dieu veut que tu fasses partie de son armée. Dieu veut t'enrôler. Alléluia. Il veut te dire combien il t'a aimé d'un grand amour, et que sa grâce a tout effacé, et que maintenant il veut mettre dans ta vie de nouvelles capacités, de nouveaux dons, de nouvelles dispositions, de nouvelles attitudes. Alléluia! Ne regarde pas ta vie passée. Il fait toutes choses nouvelles. Gloire à Dieu! Et si tu te rappelles de ta vie passée, c'est toujours pour bénir le Seigneur et lui dire, oh, combien tu as été bon, Seigneur, combien tu as été merveilleux dans ma vie. Quand je vois ce que je suis maintenant et ce que j'étais avant, ah, je ne peux que me courber devant toi, comme Paul, bien souvent, se courbait devant le Seigneur et lui donner toute la gloire. Alors qu'il était en train d'écrire des épîtres, bien souvent il était transporté devant l'infinie grandeur de la majesté, de la beauté, de la sainteté divine. Il s'arrêtait d'écrire et il se courbait devant le Seigneur et il commençait à adorer son Père Céleste. Alléluia! Devant tout ce qu'il est, devant tout ce qu'il a fait. Et pourtant, il l'avait sorti de bien loin, n'est-ce pas vrai? Et nous aussi, nous étions de leur nombre, mais maintenant, il nous a pardonné, il nous a fait grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir. On s'assoit pour quoi? Pour régner. Amen. Si tu es assis avec lui sur son trône, ce n'est pas pour te rester comme ça sans rien faire. S'asseoir là, c'est pour régner avec lui. Alléluia. Il nous aime tellement, non seulement il nous sauve, mais il veut que nous devenions ouvriers avec lui. Il veut nous utiliser, il nous fait asseoir avec lui, pour combattre avec lui. Il est le capitaine et nous sommes ses soldats. Alléluia! Il veut nous utiliser chacun, il nous fait asseoir avec lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous qui étions rien du tout, des mécontents, des dettes et tout, nous étions de ce nombre-là. Il n'y a pas de quoi se glorifier, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de quoi se glorifier. Et si on se glorifie maintenant, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu fait très bien les choses, mes amis, afin que jamais nous ne ravissions la gloire qui revient à Dieu et à notre roi des rois. Alléluia. Tout vient de lui et tout doit revenir à lui. Alléluia. Mais Dieu soit béni de ce que nous qui n'étions rien, des enfants de colère, des fils de la rébellion, il nous a enrôlés dans son armée. Il nous a purifiés, lavés, sanctifiés, armés de ses dons. Et maintenant, il veut nous utiliser pour aller sauver d'autres âmes. Alléluia. Établir son royaume dans les cœurs. Alléluia. Voyons maintenant la deuxième qualité dans 1 Chronique 12, 2. On va rester dans les chroniques maintenant, chapitre 12, verset 2. Il est dit, c'était donc, en parlant de ceux qui étaient là, de ces vaillants hommes, verset 1er déjà on peut lire, voici donc ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül. Parce que Saül voulait sa mort, n'est-ce pas vrai? Il voulait le détruire. Saül était jaloux parce que quand David sortait, il y avait des victoires et Saül, lui, il n'avait rien du tout. Il était jaloux, il voulait le tuer. En présence de Saül, fils de Kis, il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'était des archers. Alors maintenant, voilà la... On va s'arrêter au deuxième verset. C'était des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Alors ici, j'ai noté la deuxième qualité. Donc, David avait des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit... Que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est la double bénédiction. Amen. De la main droite et de la main gauche. C'est la double bénédiction qui est sur nous. En Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pouvez-vous les compter, ces bénédictions? Eh bien, souvent, nous, quand nous... Regardons au Seigneur, Dieu, mon Seigneur, je me demande de quelle bénédiction tu m'as béni. Seigneur, tu ne m'as pas bien beaucoup béni. Et Dieu te dit ce matin, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. La main droite et la main gauche. Tu es à droite. Alléluia. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu ne t'en rends pas compte. Gloire à Dieu. Amen. Tu es béni. Tu dois le croire. Et lorsque nous réalisons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, alors nous bénissons le Seigneur. Éphésiens 1, 3, ça dit bien, béni soit Dieu, voyez-vous? L'apôtre Paul bénit Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Nous bénissons Dieu parce que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Nous devons le croire. Nous devons le remercier et dire merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Alléluia. Dieu veut utiliser ta main droite et ta main gauche, c'est la double bénédiction. Gloire au Seigneur. Et il y a un autre sens aussi dans la main droite et la main gauche, il y a une autre signification. Dieu veut nous utiliser dans les fruits de l'esprit et aussi les dons de l'esprit. Il faut qu'il y ait un équilibre dans notre vie spirituelle. Amen. Il y a ceux qui mettent l'accent sur les dons spirituels et d'autres qui mettent seulement l'accent sur les fruits de l'esprit. Mais le chrétien a la double bénédiction. Nous devons manifester les fruits et aussi les dons spirituels. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Ça, c'est le chrétien équilibré. C'est vraiment le chrétien armé. Gloire au Seigneur. Par les fruits de l'esprit, vous régnez sur votre propre vie. Et par les dons spirituels, c'est Dieu qui vous utilise pour bénir les autres. Amen. Alléluia. Par les fruits, Dieu façonne le caractère de Jésus en vous. Amen. Mais avant d'être une bénédiction aux autres, ne l'oubliez pas, mes amis. Il faut que les fruits de l'esprit aussi soient vus en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia! Car vous le savez vous-même, dans 1 Corinthiens 13, il est dit, « Si je manifeste tous les dons de l'Esprit, si je n'ai pas la charité et l'amour, je ne suis rien. » Ce ne sont pas les dons qui ne sont rien, mais c'est moi qui suis rien. Je peux manifester des dons, mais si mon cœur n'est pas rempli de compassion et d'amour, alors je ne suis rien. Je ne suis pas vraiment une bénédiction aux autres. Il y a quelque chose qui manque. C'est quand ces dons se manifestent dans l'amour que la bénédiction est double, est réelle, est profonde. Amen. C'est la bénédiction dont on ne se repent pas, qui vraiment nous pénètre au fond de nous-mêmes et qui nous change complètement et qui change aussi les autres. Alléluia. À droite, de la main droite et de la main gauche. Les fruits de l'esprit et les dons spirituels vont toujours ensemble. Amen. Toujours. Nous devons veiller à ce qu'il y ait cet équilibre parfait. Cet équilibre et en même temps cette plénitude. Amen. Ceux qui n'avaient que de la main droite, bon, ils étaient à droite, mais tandis que l'autre avec la main gauche, c'était une bénédiction de plus. On peut avoir les fruits. C'est une bénédiction. On peut avoir les dons, c'est une bénédiction. Mais quand les deux sont ensemble, c'est une double bénédiction. Amen. Alléluia. C'est pouvoir être utilisé dans toutes les circonstances. Avez-vous remarqué? Quelqu'un qui utilise la main droite et la main gauche, c'est quelqu'un qui peut être utilisé dans toutes les circonstances. Amen. Quand il est coincé à un endroit pour se battre. Quand il est coincé contre un mur de ce côté-là et le bras droit est coincé ici, il ne peut rien faire, l'ennemi. Mais il a toujours la main gauche. Il y a la main gauche, amen. Tu veux m'avoir ici, mais il y a la main gauche. Il n'est pas... Voyez-vous, il peut toujours s'en sortir. Hein. L'autre, il pensait qu'il ne savait pas utiliser sa main gauche. Hein. Il le coince, il dit, je vais l'avoir celui-là. Si on peut avoir sa main droite, c'est fini, il est fichu. Ah bon? Mais il ne sait pas que l'autre, il est aussi puissant qu'avec la main gauche. Il le coince. Et ça y est, l'autre, il se réjouit déjà. Et puis lui, terminé. Alléluia. Celui qui a les deux mains, il n'est pas pris de court. On ne peut pas le coincer. Il s'en sort toujours. Alléluia. Parce qu'il y a une plénitude. C'est ce que Dieu veut dans notre vie, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous devons rechercher ces choses. Toujours manifester plus de fruits et des dons spirituels. Gloire au Seigneur. On va un peu plus loin. Troisième qualité. Au verset 8, 12-8, il est dit, parmi les gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Quelle qualité! Alors David, donc, troisièmement, avait des soldats exercés à la guerre. Armés de boucliers et de lances, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Voilà. Alors ici, nous voyons donc, on peut prendre comme passage dans le Nouveau Testament, j'ai noté 2 Timothée 2:3, quand il est dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » et 2 Timothée 3:12 « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc ce sont des gens ici, nous voyons, qui étaient exercer, des soldats exercés à la guerre, exercés à la guerre. Autrement dit, la guerre pour eux n'était pas quelque chose qui, vous voyez, qui les faisait peur. Au contraire, la souffrance, les difficultés, les épreuves, tout cela ne les arrêtait pas du tout. Au contraire, c'était des hommes qui savaient utiliser leurs épreuves, leurs souffrances pour aller de l'avant. Amen. Il y en a qui, quand ils ont quand ils ont quelques souffrances, quelques difficultés, pof, il n'y a plus rien du tout, bloqué. Comment ça va? Ah ben, ça va pas du tout. Pourquoi? Ah ben, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, voyez-vous, ils utilisent leurs souffrances pour s'arrêter, se bloquer. Alors, ils attendent que, voyez-vous, tout soit résolu pour commencer à combattre. Et vous, ce qui se passe quand, souvent, bon, Dieu intervient et résout ce problème, mais à peine un problème résolu, qu'il y en a un autre qui revient.
Et puis ils sautent d'un problème à un autre, ce qui fait que vous ne les voyez jamais combattre. Parce que sur cette terre, il y aura toujours des problèmes, des souffrances, des épreuves. Amen. Si tu attends que toujours que tout soit résolu, mais tu te fais des illusions. Ici, c'était des hommes exercés à la guerre. Autrement dit, ils utilisaient toutes les souffrances, tous les combats, toutes les difficultés pour aller de l'avant. Quelle mentalité! Amen. Vous vous rendez compte, des hommes comme cela exercés, semblables à quoi? À des lions. Vous vous rendez compte comment qu'est-ce qu'il est dit? À des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Alléluia. Vous vous rendez compte, une telle armée, comme des lions, comme des gazelles, rien ne les arrête. L'ennemi est là. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ennemi est là pour être vaincu, enfin c'est tout. Les difficultés sont là pour les vaincre. Amen. Les difficultés ne sont pas là pour être vaincues par elles, mais pour que tu les triomphes d'elles. Alléluia. Voilà comment nous pouvons régner avec Christ, sans nous laisser arrêter par quoi que ce soit. Mais il faut pour cela dire, Seigneur, rien ne m'arrêtera. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune souffrance, aucun combat, rien ne m'arrêtera. J'aurais bien voulu voir ces hommes, moi, et vous? Ces hommes-là de David, vous n'auriez pas aimé les voir? Rien que les voir, comme cela, ça vous transporte déjà. Vous prenez courage en voyant des gens comme ça. Amen. Tandis que vous voyez un autre, là, il va au combat, soi-disant. Il y a une souris qui passe derrière. Tout lui fait peur. Tout lui fait peur. Tandis que l'autre, rien du tout. Il est décidé à combattre. Combat le bon combat. Il nous faut réaliser que la vie chrétienne est un combat. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes surpris quand il y a des combats. On dit, oh Seigneur, on veut toujours. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel. Utilise tes combats pour remporter des victoires, pour t'affermir spirituellement. Utilise tout cela. Amen. Mais ne te laisse arrêter par rien du tout. Semblable à des lions. Vous avez vu des lions? Impressionné par personne. Et quand le lion regarde, c'est vous qui le jugez. Mais le lion, rien du tout. Quelle assurance! Comme des gazelles sur les montagnes. Allez donc aussi, les difficultés, les montagnes, rien du tout. Alors, on fonce devant la difficulté. Il y en a qui, quand la difficulté arrive, il faut aller loin de la difficulté. Loin, non, fonce droit dans la difficulté. Et là, tu verras l'aide de Dieu. Tu verras le secours de Dieu. Certains sont spécialistes pour fuir les difficultés. Et en général, ceux qui fuient les difficultés, ce sont ceux qui en ont le plus. Parce que toutes leurs difficultés s'ajoutent. Ils n'arrivent à résoudre aucune difficulté, aucun problème. Ils les fuient, alors ils n'arrivent pas à les résoudre. Mais si tu vas droit devant, Seigneur, rien ne m'arrêtera. Je veux te glorifier. Je veux régner sur ces difficultés. Je ne veux pas me laisser dominer par cela. Quelles que soient les difficultés, je veux aller de l'avant. Amen. Exercer à la guerre. Exercer. Es-tu exercé? Es-tu exercé? Ça veut dire que là, tu es disponible pour ça. Quand la guerre arrive, quand il y a des difficultés arrivent, tu n'es pas désarçonné. Tu n'es pas découragé. Tu es exercé pour ça. Son armée était là. Dès que quelque chose arrivait, allez, venez tous. Tu dois être prêt. Terminé. Comme, oh là là, quel courage. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Et il n'en faut pas beaucoup comme cela. Amen. Il n'en faut pas beaucoup. Quelques hommes comme cela, et je vous assure, cela suffit au Seigneur pour faire de grandes choses. Car Dieu s'est toujours glorifié avec le petit nombre. Amen. Bien souvent, nous pouvons décourager par le petit nombre et dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit nombre? Et je sais que beaucoup de chrétiens sont influencés par le petit nombre. Ça sert à quoi de venir? On n'est pas nombreux.
Dieu veut utiliser le petit nombre. Amen. Et Dieu nous forme. Le petit nombre n'est rien pour le Seigneur. Ce n'est pas un obstacle pour lui. Si ce petit nombre se met à son service et demande de l'utiliser, Dieu l'utilisera et fera de grandes choses. Amen. Il a fallu 12 apôtres avec le Seigneur, avec 12 hommes. Eh bien, il a bouleversé le monde. Troisièmement, des hommes exercés au combat, exercés. Ça veut dire qu'ils savent que les difficultés sont là et ils se disent, eh bien, c'est dans les difficultés que nous remporterons des victoires. Amen. Vous savez, parce que quand vous remportez des victoires, une victoire remportée, ça vous fortifie, ça vous encourage pour remporter une autre victoire. Amen. C'est ça. Quand vous savez que vous avez pu résoudre telle difficulté avec l'aide du Seigneur, ça vous encourage pour résoudre encore un autre problème. Et cela vous donne encore plus d'assurance. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Te donner la sagesse, l'intelligence, le courage, la détermination pour remporter ces victoires. Ne te laisse arrêter par personne. Exercer à la guerre. Es-tu exercé à la guerre ? Quand l'ennemi arrive, la difficulté arrive. Formidable. Les géants sont là. Un passage dans la Bible nous dit que ces géants serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. Dieu veut de nos chrétiens les géants comme nourriture. Alléluia. C'est comme ça qu'Israël a vaincu les géants en Canaan. Allons un peu plus loin. Quatrièmement, il faut qu'on aille plus loin maintenant. Le quatrième point, 14 et 15, cette fois, 1 Chronique 14 et 15, David avait des hommes courageux. 14 et 15, il est dit, c'était le fils de Gad, chef de l'armée. Regardez voir ici, un seul. Le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. N'est-ce pas merveilleux? C'était donc des hommes courageux. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Le plus petit pouvait en chasser 1000 et le plus fort 100 et le plus fort 1000, le plus petit, 100, vous vous rendez compte, le plus petit, 100 personnes, rien du tout, quel courage. Et la parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soulignez ce verbe fuir. Fuir veut dire avoir peur de quelqu'un. Quand vous fuyez loin de quelqu'un, c'est que vous avez peur de ce quelqu'un. Amen. C'est pourquoi nous deux, quand nous résistons au diable, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que nous régnons avec Christ, le diable voit. Le diable le voit. Il voit notre autorité en Christ. Il connaît notre autorité en Christ, beaucoup plus que certains chrétiens ne la connaissent, cette autorité. C'est pourquoi quand un chrétien exerce son autorité, le diable commence à trembler. Des hommes courageux, un en chasse 100 et deux, et un autre, le plus fort, 1000. Il y a un autre passage qui dit, un en chassera 1000 et deux, 10 000. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais il faut des hommes courageux pour cela. Ce n'est pas de la maison que vous les chassez, il faut y aller. Quand vous voyez les 100 là, qui sont là, et qui se dirige vers vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Et c'est quand nous y allons que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pas en disant, oh, Seigneur, fais quelque chose. Les sangs arrivent, s'il te plaît, ça y est, c'est mon dernier jour. C'est mon dernier jour, Seigneur, fais quelque chose. Non, 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 non. C'est quand tu y vas. C'est quand tu obéis. C'est quand tu vas de l'avant. C'est là que tu verras le miracle de Dieu. Amen. Tu seras étonné. Le plus petit en chassera 100. C'est formidable. Le plus petit d'entre nous peut en chasser 100.
Autrement dit, faire un travail extraordinaire dans la main de Dieu. Un homme avec Dieu, c'est une majorité. 100 000 hommes sans Dieu, c'est une triste minorité. Alléluia! Mais des hommes courageux, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous vous rendez compte qu'on peut résister au diable et qu'il fuit loin de nous, loin de toi. Crois-le! Crois-le, il fuit! Cela veut dire qu'il a peur de toi. Ah, c'est ça, le chrétien courageux. Le vrai chrétien n'a jamais peur du diable. C'est le diable qui a peur d'un vrai chrétien. Amen. Le vrai chrétien n'a jamais peur du diable. C'est le diable qui a peur d'un vrai chrétien. Mais il faut y aller. Il faut affronter la difficulté. Seigneur, tu vas m'aider. Seigneur, tu seras là. Seigneur, je vais avec toi. Il y en a 100 ici. Il y en a 1000 là. Peu importe. Vous vous rendez compte? Un homme qui peut chasser 1000 personnes. Mais c'est incroyable. Vous êtes d'accord avec moi? Réfléchissons un petit peu. 100 et un autre 1000. 1000! Mais c'est pas 2 personnes. On pourrait dire, ça y est, les autres, 1000 viennent sur lui et puis c'est terminé. Non, mais les autres ne calculent pas quelque chose. C'est un homme plus Dieu. Alléluia. C'est un homme plus Dieu. C'est un homme plus Dieu. C'est pourquoi les 1000 hommes qui sont là, c'est une triste minorité. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Courageux, sois courageux. Combien de fois Jésus a dit à l'un et à l'autre, mon fils, prends courage. À Josué, il lui a dit aussi, prends courage. Prends courage, c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays. Prends courage, prends courage. Et lorsque nous sommes décidés à aller de l'avant, mes amis, de grandes choses se passent. Vous serez étonnés de voir Dieu agir, mais Dieu agit lorsque nous avançons. Et le courage n'est pas absence de crainte, mes amis. Bien souvent, nous pensons qu'avoir du courage, c'est ne pas avoir de la crainte. Non, c'est dominer sa crainte et aller de l'avant malgré tout. Amen. Le courage n'est pas l'absence de crainte. C'est pas vrai. Si c'était une absence de crainte, il n'y aurait pas de courage. Vous êtes d'accord avec moi? En quoi est-ce que vous êtes courageux si vous n'avez pas peur? Il n'y a pas de courage. Le courage, c'est justement le dominer sa crainte. C'est malgré sa crainte, vous allez de l'avant. En comptant sur le Seigneur. Alléluia! Et c'est là que vous voyez Dieu agir merveilleusement. Amen! Que personne ne se laisse arrêter. Va de l'avant et le Seigneur fera de grandes choses. Allons un peu plus loin. On en est où? Cinquièmement, versets 17 et 18, David avait des hommes loyaux et les plaça parmi les chefs de la troupe. 17 et 18, David sortit au-devant d'eux. Donc au verset 16, il y eut aussi les fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. » Alors après, il dit, « Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit. » Voyez-vous, un homme. Comme je disais tout à l'heure, plus Dieu. Il y avait le revêtement du Saint-Esprit qui était là. Et dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Amen. Voilà donc une autre qualité de ceux qui doivent régner avec le Seigneur. Ce sont des hommes loyaux. Et Dieu confie des responsabilités, des dons à ceux qui prouvent leur fidélité et leur loyauté. Amen.
Voilà qui Dieu donne des dons et des responsabilités. Quand cet homme-là, Amasai, s'est tenu vers David, devant David, revêtu de l'esprit, on est à toi. Nous sommes à toi, David. Nous sommes à toi. Alors David l'a su que c'était sincère. Eh bien, il a dit, bien, viens, tu seras aussi un des chefs de ma troupe. Alléluia. Il a d'abord prouvé sa loyauté, sa fidélité. Et alors, Dieu l'a ensuite utilisé. Mes amis, les hommes, les femmes que Dieu utilise, ce sont des personnes loyales, fidèles. C'est à cela que Dieu donne des dons. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Quelle consolation pour David. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme comme cela. Ne crains pas, David. Nous sommes à toi. On est avec toi pour la vie et pour la mort. David a pris confiance. Venez maintenant. Des hommes comme vous, j'en ai besoin. Sois un des chefs de ma troupe maintenant. Alléluia. Nous devons prouver notre fidélité et notre loyauté au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, devant nos amis, devant nos camarades, à l'usine, au travail, partout où nous sommes, nous devons prouver et nous au Seigneur que nous lui appartenons. Nous devons être loyaux devant le Seigneur. Amen. Et ne pas faire comme Pierre pendant un instant qui a renié son maître devant une simple servante. Bien sûr, il s'en est repenti, il n'a plus été le même. Mais nous devons montrer notre loyauté. Amen. Que rien ne nous arrête. Voilà les hommes et les femmes que Dieu utilise. Dieu a toujours un travail, des ministères, des dons, des capacités pour ceux qui sont loyaux et fidèles au Seigneur. Amen. Amen. Dieu le verra et Dieu te bénira. Amen. 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 Alléluia. Quelle consolation, quelle force pour David. Nous sommes à toi. Paix, paix. N'aie pas peur. Nous sommes à toi, David. Ils ont prouvé leur loyauté. Et David a dit, maintenant, venez, allez, d'accord. Je vois que vous êtes avec moi. Allez, voilà du travail pour vous. Alléluia. Seigneur, nous sommes à toi. Seigneur, je me donne à toi. Jésus s'est donné pour toi. Mais toi, est-ce que tu t'es donné à lui? Bien souvent, nous chantons son amour pour nous, c'est merveilleux. Mais en retour, l'amour, je le répète, c'est un dialogue. L'amour réclame une réponse. Dieu nous aime. Et cet amour réclame une réponse. Dieu nous a tant aimés. Et il veut que nous l'aimions aussi de tout notre cœur. Amen. Dans son amour pour nous, il s'est donné pour nous. Et dans notre amour pour lui, nous nous donnons à lui 100%. Son amour était un amour total. 100% pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et notre amour pour lui doit être aussi total. Amen. Sans compromis, sans demi-mesure. Mes amis, nous pouvons être imparfaits. Qui est parfait? Nous pouvons avoir nos imperfections. Et Dieu nous utilisera quand même. Mais Dieu ne pourra jamais utiliser quelqu'un qui a des demi-mesures, qui n'est pas entier pour le Seigneur. Dieu ne peut pas accepter cela. Tu peux avoir des faiblesses, tu peux avoir des combats, mais si ton cœur est entier pour le Seigneur, Dieu t'utilisera. Dieu te façonnera, Dieu te changera. Mais si ton cœur n'est pas entier, si tu fais des compromis, moitié pour le Seigneur, moitié pour le monde, moitié pour ceci, moitié pour cela, et tu veux que Dieu t'utilise, jamais. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Dieu aime ceux qui se donnent entièrement à lui. Amen. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi, disait-il à David. Nous sommes à toi. Avez-vous dit au Seigneur, je suis à toi? Me voici pour faire ta volonté et non la mienne. Je suis à toi. Alléluia. Prends-moi. Utilise-moi. L'as-tu fait? As-tu fait cette prière une fois? Me voici, Seigneur. Je me donne à toi. Pour la vie ou pour la mort. Je me donne à toi. Utilise-moi. Dieu entendra cette prière. Pas toujours tout de suite. Du jour au lendemain. Mais Dieu entendra à partir de ce moment-là. Les circonstances. Dieu va utiliser n'importe quelle circonstance pour te former. Pour tester aussi ta loyauté. Et lorsque le moment viendra, il t'utilisera aussi. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons loyaux, loyaux. David, verset 32, David avait des hommes sages.
Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Verset 32, il est dit, des fils d'Issacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voyez-vous, la tribu d'Issacar avait l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, des hommes sages. Vous croyez que c'est quelque chose d'absolument utile, indispensable. Amen. On va à la guerre aussi, on combat avec sa tête, pas seulement avec ses armes. Il faut une intelligence des choses. Vous discernez les ruses du malin. Alléluia. Connaître la pensée de Dieu et aller de l'avant. Romains 12 nous dit ceci. Romains 12, c'est la réponse. C'est là, je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et raisonnable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Si tu veux être sage pour le Seigneur, tu dois premièrement offrir ton corps. Je vous exhorte, frères, offrez vos corps en sacrifice vivant. Amen. Ensuite, ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence. Et alors vous connaîtrez la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Alléluia. Et vous combattrez avec intelligence. Dieu vous donnera sa sagesse par son esprit et par sa parole. Amen. David, septièmement, avait des hommes en état d'aller à la guerre. Je termine, c'est le verset 33. David, de Zabulon, 50 000 en état d'aller à la guerre, muni pour le combat, de toutes les armes de guerre, et prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Alléluia. David avait des hommes en état d'aller au combat. Et je note tout de suite quelques pensées ici avant de terminer. En état d'aller au combat, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ils pouvaient travailler ensemble. Amen. Si vous allez à la guerre, il faut pouvoir travailler avec le soldat d'à côté, vous êtes d'accord? Ils pouvaient travailler ensemble. Ils étaient prêts à obéir à n'importe quel ordre. Troisièmement, ils connaissaient leurs tâches. Ils connaissaient leurs tâches. Quatrièmement, ils étaient prêts à prendre la place la plus humble. Amen. Et cinquièmement, ils avaient un cœur résolu. Amen. Décidé. Alléluia. Des hommes décidés. Rien ne pouvait arrêter. Qui pouvaient travailler ensemble, qui pouvaient obéir à n'importe quel ordre, qui connaissaient leurs tâches, et ils étaient à prendre la place la plus humble. Alléluia. Plus nous vivons près de Dieu, plus il est facile de travailler avec nous. C'est ainsi que plus nous vivrons près du Seigneur, mes amis, plus il sera facile de travailler avec nous. Moins nous sommes près du Seigneur, moins nous pouvons travailler avec les autres. Amen. C'est pourquoi vivons près du Seigneur. Consacrons-nous au Seigneur et le Seigneur nous utilisera. Et nous pourrons travailler ensemble et Dieu nous utilisera pour sa gloire. Comment régner avec Christ? Voilà, que le Seigneur trouve en nous ces dispositions, ces qualités indispensables. Et Dieu agira dans ta vie et par ta vie pour le bien d'un grand nombre. Sois courageux, va de l'avant, le Seigneur est avec toi. Alléluia, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen.
Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau.